Bonjour, je m'appelle Katie, j'ai 37 ans, maman de 3 enfants, donc de 8 ans à 10 mois, et je rencontre un problème concernant ma petite dernière qui s'appelle Tali, qui a 10 mois, et au moment du coucher, bon, bah, c'est un petit peu difficile. J'ai essayé d'instaurer un rituel, de beaucoup lui parler, de lui expliquer les choses avant de la mettre au lit, pour qu'elle comprenne qu'on va se coucher. Mais rien n'y fait, je pose mademoiselle, et là, c'est des hurlements qui peuvent durer vraiment très longtemps. Donc bah, je finis par aller la voir, lui remettre sa tétine une fois, deux fois, trois fois, de la recoucher, de la recouvrir. Et puis bah voilà, je cède. Je cède, je la prends dans les bras et je la berce dans le creux de ma poitrine pendant une bonne demi-heure jusqu'à ce qu'elle dorme à point fermé. Et ensuite, je la repose. Et voilà, pratiquement toutes mes soirées. Donc, bah, si on peut me donner des conseils, je suis preneuse. Merci beaucoup.
Tous les bébés du monde parlent la même langue, ils pleurent. C'est leur seul moyen d'expression pour nous faire comprendre leur inconfort. Qu'ils naissent à Pékin, Oslo ou Dakar, bébés pleurent pareil. Cependant, on sait que les sons émis peuvent être différents s'il a faim, sommeille ou veut changer de position. Sauf que nous, parents, on n'est pas bilingue bébé. On a beau nous dire à la naissance de notre premier enfant que notre instinct maternel nous guide et qu'on comprend, devine, anticipe les pleurs de son enfant, ben, bof bof. Franchement, on peut se retrouver en face de son bébé qui se met à hurler et là commence le grand jeu des devinettes. Attends, je change sa couche. Ah non, elle est sèche. Attends, je crois qu'il se frotte les yeux. Je le couche. Ah non, en fait, il n'a pas sommeil. Bref, le désarroi total. On sait que cette non-compréhension peut provoquer une frustration énorme, autant chez l'enfant que chez les parents. Et certains disent parfois qu'ils sont à bout. On aimerait bien avoir un dictionnaire, mais ça n'existe pas. Alors en attendant, si on essayait de comprendre un peu mieux notre bébé pleureur, de décoder ce qu'il nous dit pour mieux communiquer. C'est ce que va nous expliquer Stéphane Valentin, qui est docteur en psychologie, mais aussi auteur de différents ouvrages autour de bébés comme « Quand mon bébé me parle ». Stéphane Valentin va vous traduire ce que vous disent vos bébés. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Parents Galère sa mère, un épisode apprentissage de langue étrangère. Bonjour Stéphane Valentin.
Bonjour Dorothée, bonjour à tous les parents.
On va essayer donc, comme on disait, de décrypter les pleurs de nos bébés aujourd'hui. Alors, une première question, est-ce qu'on peut tout d'abord définir ce qu'on entend par pleurs des bébés? Parce que c'est vrai que souvent, on voit des bébés qui crient, mais qui n'ont pas de larmes. C'est quoi alors des pleurs de bébés?
Les pleurs de bébés, c'est comme les cris, c'est un message, puisque le bébé ne sait pas parler, pas encore. Et d'ailleurs, même quand il sait parler, il va pleurer quand même après. Les pleurs font toujours partie des messages de l'enfant, des émotions qu'il veut exprimer. Mais surtout pendant les premiers mois de la vie, quand il ne sait pas parler, ça lui permet d'envoyer un message à l'environnement. Surtout aussi de les faire venir vers lui. Parce qu'en général, quand on pleure et quand on crie, maman et papa viennent. Et c'est ça aussi qui aide l'enfant parce qu'il aura l'impression que même s'il est encore tout petit, il peut avoir un impact sur son environnement. Donc finalement, c'est comme les paroles, les pleurs et les cris sont porteurs de messages. C'est une mode de communication pour le bébé.
On se demande quand même combien de temps doit pleurer un nourrisson en moyenne par jour. C'est peut-être une question naïve, mais c'est vrai que pour des jeunes parents, ils veulent savoir en moyenne combien pleure un bébé, je ne sais pas, entre 0 et 3 mois, puis entre 3 et 6 mois, et puis à plus de 6. Est-ce qu'il y aurait une norme?
Non, il n'y a pas de norme. Et je trouve d'ailleurs, c'est très, très difficile pour les parents quand on donne des normes, parce que bien sûr, tout de suite, on est inquiet. Parce que si je vous dis maintenant, la norme, ça serait pour un bébé de, disons, de 6 semaines, il faut qu'il pleure 6 heures par jour. Alors les parents qui sont à bonne moyenne vont être contents, et puis les parents où ils pleurent pas assez, ils vont dire, mais pourquoi ils pleurent pas autant que le bébé de ma copine?
Oui.
Et puis ceux qui crient trop, ça va les inquiéter aussi. Donc finalement, les normes, il faut se méfier.
Ouais.
Moi, en général, je les donne toujours approximativement aussi en ce qui concerne, par exemple, le sommeil du bébé. Parce que chaque enfant est différent. Chaque bébé a ses habitudes, son rythme. Et puis aussi, les besoins sont différents d'un bébé à l'autre. Vous voyez, il y a des bébés qui, après la naissance, ils dorment toute la journée. Et on se dit, mais à quel moment on va les allaiter? Oui. Ils dorment toute la nuit. Certains bébés, c'est très rare, mais ça existe. Un bébé dort, dès la naissance, en tout cas pendant les premières semaines, toute la nuit. Et pourtant, avoir, par exemple, le repas de la nuit, c'est important aussi pour le cerveau. Mm-hmm. Mais après, il se rattrape ailleurs.
Oui, on peut pas donner de règles finalement prédéfinies, ouais.
Mais en fait, ce qui est une norme, c'est peut-être la fatigue des parents.
Oui.
C'est ça où on se dit, mon bébé crie peut-être trop et il y a des enfants qui, et c'est vrai, qui crient jusqu'à 16-18 heures par jour. Et là, il y a maintenant d'ailleurs des ambulances des cris où les parents peuvent chercher des conseils, du soutien, parce que ça c'est très très dur quand un bébé pleure autant. En général, vu que pour le bébé, c'est son moyen de communiquer avec les parents et il le comprend très vite. Il comprend très vite que dès la naissance, quand il sort du ventre de la maman, qu'il crie. En général, il est posé sur le ventre de la maman. Et donc, tout de suite, il y a une réponse à ce cri qui essaie de le calmer. Et ça, l'enfant le remarque très vite qu'il y a un échange. Je crie, je mets un message et je reçois une réponse. C'est finalement la base de la communication.
Oui, bien sûr, on met notre enfant effectivement sur, on fait ce fameux pot à pot qui peut durer à peu près 2 heures,
oui.
Où on apaise notre enfant.
Oui.
Malgré tout, on a tous eu, je pense, un vieil oncle, une vieille tante ou des grands-parents qui passent à la maternité,
oui.
Et qui nous disent, oh là là, faut pas trop les habituer aux bras, faut les laisser un peu pleurer, et puis c'est pas grave, ils vont faire leurs poumons.
Mmh.
Alors, est-ce que encore aujourd'hui en 2022, on se dit qu'on peut laisser pleurer son bébé, ou est-ce qu'on se dit qu'on doit rapidement répondre à ses pleurs?
Alors, vous avez bien dit que c'est souvent des générations un peu plus anciennes,
oui.
Qui pensent que les jeunes parents sont un peu hystériques parce qu'ils prennent tout de suite leur bébé dans les bras dès qu'il pleure. Et ce serait pas mal de le laisser aussi un peu pleurer parce qu'il faut qu'on lui montre que bon, c'est pas le bébé qui fait la loi dans la maison. Et puis moi je suis d'origine allemande, mais j'ai beaucoup rigolé quand j'ai entendu aussi un autre dicton en France, c'était « laisse-le pleurer, comme ça il pissera moins ». C'est quelque chose, je lui ai dit, chez nous, c'est plutôt avec les poumons, ça lui fait des bons poumons ou une bonne voix.
Ouais, ouais.
Donc, les parents répondent toujours aux besoins de leur enfant dans n'importe quelle situation, ils seront toujours là pour toi et c'est ça qui rassure. Si je sais que maman et papa seront là, je peux sortir et découvrir le monde parce que dès qu'il y a un danger, ils vont me sauver. C'est ça le message principal de l'attachement.
Mm.
Et donc, un bébé, par exemple, qui crie, par exemple parce qu'il a faim, il va comprendre qu'au début, pendant les premières semaines, il doit crier, mais longtemps, à son avis, pour que les parents comprennent, mais je crie parce que j'ai faim. Parce qu'il peut avoir aussi des couches qui sont sales ou autre chose, mm-hmm. Ou peut-être il a besoin d'amour. Mais pour lui, bon, disons maintenant pour le cri de la faim, il va faire un cri strident et il se dit, bon, à un moment, ils vont comprendre que j'ai besoin du sein ou du biberon. Et donc, après quelques semaines, quand il a compris que, bon, finalement, maman, il a compris, papa aussi, que c'est ça dont j'ai besoin avec ce cri-là, tout à coup, on va remarquer que quand il a faim, il va pousser un cri très strident et après, il va commencer, par exemple, à sucer son pouce, c'est-à-dire, il va pouvoir se patienter. Parce qu'il se dit, j'ai plus besoin de crier comme un dingue. Maman et papa, ils ont compris depuis quelque temps. Et la réponse, donc, mon repas va arriver.
Mm.
Donc ça, c'est très important pour les bébés. Quand on pleure, on arrive, on regarde ce qui se passe. Et c'est ça qui va aussi aider le bébé à ne pas crier sans arrêt parce qu'il dit, j'ai besoin de faire un message, mais après...
La communication est passée, en fait. Ouais, on arrive à se comprendre.
Alors, si maintenant, on se dit, par exemple, si le soir, il y a des méthodes où on laisse crier le bébé le soir, parce qu'on se dit, bon, J'ai pas envie de venir sans arrêt regarder ce qui va avec lui. Mm-hmm. Surtout à partir de l'âge de 6 mois, il y a souvent des parents qui pratiquent cette méthode. Et donc, l'enfant, qu'est-ce qu'elle lui envoie? Le bébé, par exemple, il est dans son lit, il pleure. Il n'arrive pas à s'endormir parce que c'est comme une tâche énorme pour nous tous. Combien de fois, nous, adultes, on tourne dans le lit? On a tous nos rituels du coucher. Les uns, ils regardent la télé, les autres lisent, les autres entendent la radio. Votre podcast, par exemple. et alors, il crie dans son lit, dans le noir. Et les parents se disent, bon, il va s'arrêter un moment. Mais oui, il va s'arrêter un moment. Mais pas parce qu'il a compris qu'il faut s'endormir, mais parce qu'il a compris le message. Si je crie, personne ne va venir. Ouais.
Il y a quand même certaines personnes qui disent, des professionnels de la santé, qui disent qu'un enfant, avant de dormir, parfois pleure aussi pour décharger, comme on dit, et qu'on doit le laisser 5 minutes, justement, décharger. Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce que vous pensez qu'il faut effectivement faire ça?
Alors, c'est vrai que ça existe. Il y a une décharge, oui, mais on peut faire ça aussi en présence des parents. Mmh. De toute façon, ce qu'on peut faire, par exemple, on peut se mettre sur une chaise à proximité du lit ou du berceau ou du lit parental, si c'est le coup de dormir. Mais on n'a pas besoin de sortir de la chambre et de se dire, bon, je laisse crier, c'est une décharge. Oui. Vous voyez, c'est quelque chose qui était très difficile. Je sais, en Allemagne, par exemple, il y a un guide pour les parents, pour le sommeil. Ils disent, bah, si le bébé pleure, vous mettez des écouteurs, vous écoutez de la musique.
Ah oui.
Même 45 minutes.
D'accord. Je pensais qu'en Allemagne, c'était plutôt le contraire.
Oui, mais il y a ce livre-là qui est quand même un best-seller, malheureusement, parce qu'il donne comme un mot d'emploi aux parents de dire, voilà, vous laissez crier pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, et puis à un moment, il va s'arrêter. Mais comme j'ai dit, parce que je pense qu'il a compris que personne ne va venir. Donc, ce n'est pas vraiment un développement positif de l'autonomie du sommeil, de se dire, de toute façon, ce n'est pas la peine de crier parce que personne ne va venir. Donc, ce n'est pas bonne autonomie. En général, quand on apporte le plus vite possible la réponse quand l'enfant crie, quand on l'apaise, il sera d'autant plus autonome à un an que si on le laisse crier, parce que c'est ça qui rassure un bébé. Je sais quand j'ai peur, quand j'ai besoin de maman, papa, quand j'ai faim, quand je suis triste, etc. Ils vont venir et c'est ça qui va le rassurer et c'est ça qui le rendra autonome à un an.
Ça va le sécuriser. Est-ce qu'on pourrait essayer de lister, parce que vous en avez donné déjà quelques-unes, des causes des pleurs de bébés. Si on voulait faire une espèce de liste, finalement, top 10, je ne sais pas, ou top 5, des pleurs fréquents de bébés, ce serait quoi? Quels sont les messages qui nous envoient?
Alors, par exemple, il y a la faim, il y a l'inconfort, la peur, la douleur, le stress, ça peut être l'anxiété, ça peut être le besoin qu'il a besoin d'être dans les bras de maman et de papa, ça peut être bien sûr les coliques, vous voyez. Aussi, il y a par exemple le problème avec les tubes digestifs qui est assez fréquent finalement, je trouve. Et les bébés, quand ils ont du reflux, surtout après le repas, et ça leur fait, ça leur donne un inconfort. Et quand ils posent le bébé sur leur ventre, surtout sur peau à peau, ça marche le mieux. La peau nue que ça rassure le bébé. Ces causes-là, il y a bien sûr aussi l'inconfort quand il a fait dans ses couches. Il y a plein de choses, mais par exemple aussi, il y a le langage du signe pour les bébés et j'ai fait des stages quand j'étais aux États-Unis. Il y a une maman qui était dans le groupe qui a raconté que son bébé de 8 mois, qui commence déjà à faire pas mal de signes, a beaucoup pleuré dans la nuit. Et elle est allée vérifier, elle s'est dit, mais tout va bien. Elle ne comprenait pas. Et l'enfant lui a signé en langage de signe qu'il a peur parce que la fenêtre était entrouverte. Donc, nous, en tant que bons parents, on se dit, mais il faut laisser la fenêtre entrouverte parce que c'est bien pour l'oxygène. On n'aurait jamais pensé que ça pourrait être une source de peur pour l'enfant et qu'il crie à cause de ça.
Il avait quel âge, ce bébé, pour pouvoir signer et
s'exprimer ? Il avait 8 mois.
Ah oui, quand même.
Il commence très tôt. On peut commencer déjà à 6, 7, 8 mois. Et quand il fait un signe vers la fenêtre, vous voyez, ça peut faire apprendre très vite un enfant le « là ». Donc, la maman a détecté la source de l'inconfort du bébé. Peut-être que c'est le vent qui a trop bougé les rideaux. Finalement, les pleurs, sont là pour nous envoyer des messages et c'est à nous de d'émettre des hypothèses le mieux qu'on peut.
Mais c'est ça qui est difficile pour les parents, et notamment quand c'est un premier enfant. Comment décrypter? Comment est-ce que je sais, moi, si mon enfant il m'envoie ce message de « j'ai faim » ou d'inconfort ou de couche sale ou de « je suis stressée » Comment est-ce qu'on fait pour décrypter?
Alors, ça se fait par une certaine intuition, mais aussi par cette façon d'émettre des hypothèses. Ce qui est très important, c'est de toute façon, c'est de réagir aux pleurs du bébé et aux cris. Et forcément, les parents, nos parents aussi, ils se sont trompés. Mais il vaut mieux se tromper que ne pas apporter de réponse. Et si, par exemple, les parents ont apporté la bonne réponse, l'enfant aussi va s'adapter. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Ce qui est très important, de se mettre à la place du bébé et de s'imaginer pourquoi il pleure, de quoi il a besoin. Après, on tente. C'est surtout les premiers mois, on tapote un peu dans le noir, on sait pas très bien comment faire. Et puis, surtout, on a souvent très peur de faire des erreurs. Parce qu'on se dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là, mon enfant? Peut-être il va se dire, je suis complètement nul comme mère ou comme père. Et puis, finalement, c'est souvent, on se juge trop soi-même. C'est un apprentissage. On devient parent avec l'enfant quand il naît. Malheureusement, il n'y a pas encore des cours à l'école pour leur pour donner des clés qui peuvent déjà aider aux parents quand le bébé naît. Mais en fait, c'est un échange avec le bébé qui se crée. Le bébé vous guide et les parents guident aussi le bébé. C'est une communication des deux côtés. Et en émettant, par exemple, l'hypothèse « mon bébé crie », je vais tenter le sein ou le biberon, et si ça marche, le bébé se dit « bon, finalement, ce cri-là, il est pas mal pour quand j'ai faim ». Et d'ailleurs, très souvent, la maman ou le papa dit quand le bébé crie « ah, ça, il a faim ».
Donc ça veut dire qu'on sait, au bout d'un moment, on a réussi à décrypter ou à comprendre le son. Celui-ci est le son de la faim, par exemple.
Mais avec la participation du bébé, il ne faut pas oublier que le bébé est très actif. Il adapte aussi ses cris parce qu'il veut aider maman et papa. Il veut les aider pour apporter plus vite la réponse. Et c'est ça, en fait, le bébé et ses parents, c'est la première équipe dans la vie d'un enfant. Et ça unit, et c'est très rassurant pour les parents de se dire « waouh, j'ai réussi à apaiser mon bébé ». Donc, c'est très gratifiant, on se sent tout à coup maman et papa encore plus, parce qu'on se dit « je suis là à aider mon bébé quand il ne va pas bien, par exemple ». Je lui apporte la bonne réponse. Et si ce n'est pas la bonne réponse, le bébé va continuer à crier jusqu'à ce qu'on se dise « bon, ce n'est pas ça ». On va tenter les
chercher.
Couches, ou bien je le prends dans les bras, peut-être il a un inconfort, je vais le mettre posé sur mon sein, par exemple, ça marche très fort pour que le bébé entende à nouveau les battements de cœur, ce qu'il a entendu pendant 9 mois dans la vie utérine. Donc, ça c'est quelque chose qui va aider l'enfant et les parents à trouver un mode de communication qui fonctionne. Et il ne faut surtout pas s'inquiéter, tous les parents font des erreurs et l'enfant se construit avec beaucoup de bonnes réponses, mais aussi des mauvaises réponses. Et c'est après, à partir des mauvaises réponses, que le bébé va aussi aider ses parents et s'adapter.
Et si on imagine, on a tout checker que tout va bien, la couche, on lui a donné à manger, etc., etc., et qu'on n'arrive quand même pas à le calmer et que mon bébé continue de pleurer. Est-ce que là, on doit s'alerter? Est-ce qu'on doit consulter? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors moi, je pense qu'il faut toujours se consulter quand on est à bout. Je pense que c'est ça qui est important. Il ne faut pas laisser être seul avec cette fatigue qui peut être énorme. Et surtout, il ne faut pas croire que le bébé vous persécute avec les cris. C'est jamais pour embêter les parents, c'est jamais pour vous faire du mal, pour imposer sa loi. C'est juste sa manière de s'exprimer et c'est malheureusement c'est la fatigue, l'épuisement des parents qui fait qu'on se sent persécuté. Et ça, c'est, on le comprend.
On n'a pas tous aussi la même résistance, je pense, face aux pleurs d'un enfant. Et comme on le disait, il y a aussi des enfants qui pleurent plus que d'autres. Qu'est-ce qu'on dirait à des jeunes parents qui sont à bout de nerfs et qui ne supportent plus les pleurs de leur bébé? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? On doit en parler quand même. On entend beaucoup parler du syndrome du bébé secoué. C'est entre 400 oui. et 500 bébés par an, des bébés oui. qui décèdent. Beaucoup ont de graves séquelles. Comment on peut se faire aider?
La première chose à faire, c'est réaliser qu'on a besoin d'aide. C'est-à-dire, il faut parler avec son partenaire. Si on est seul, on parle tout de suite à son meilleur ami, sa meilleure copine, aux parents, à une personne de confiance, à son pédiatre, à la voisine. Quelqu'un qui peut vous écouter, vous entendre, votre douleur, votre épuisement. Et après, moi, je l'ai eu dans ma vie personnelle avec une amie. Le bébé pleurait sans arrêt et je lui ai dit, c'était le deuxième enfant, elle n'a jamais eu ça avec le premier, mais le deuxième, il avait beaucoup de mal aussi avec la digestion, le reflux. Et je lui ai dit, après quelques mois, quand je sentais que elle commençait à devenir un peu aussi agressive avec le bébé, pas en le tapant, mais je sentais dans son regard qu'elle ne supporte plus le bébé. L'enfant avait peut-être 4 mois, donc il a une certaine autonomie déjà, et elle ne l'allaitait plus, elle était au biberon. Et je lui ai dit, ce qu'on va faire, tu prends maintenant quelques heures pour toi, tu vas voir ton mari, tu vas faire une promenade, tu vas aller au musée, au cinéma, ce que tu veux, mais tu sors et je m'occupe du bébé. Elle a fait ça et quand elle est revenue, c'était une toute autre personne et elle m'a dit la première chose qu'elle a faite en sortant, elle ne savait plus où aller. Parce que c'est ça aussi, vous voyez, quand vous êtes jeune maman, jeune papa, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième, vous êtes dans un tel rôle de maman d'être toujours là pour l'enfant, pour le bébé, que vous oubliez vous-même. Vous prenez peu de temps pour vous-même parce que vous aimez tellement le bébé, vous dites, mais c'est ça, j'aime le faire, mais finalement, on oublie qu'on a aussi ses propres besoins. Et si on ne satisfait pas ses propres besoins, on ne peut plus donner. Donc, elle a dit, elle était dans la rue, elle ne savait plus aller, et elle a commencé à pleurer. Et à partir de là, quand elle a arrêté de pleurer, elle a appelé son mari, elle a dit, tu veux qu'on déjeune ensemble? Et là, à partir de là, ça allait mieux. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est ne pas rester seule avec cette fatigue, son épuisement. Et je pense que le mieux, c'est de prendre quelques heures off. C'est autorisé, on n'abandonne pas son enfant si on le confie à une personne de confiance.
Bien sûr.
Pourquoi ne pas aussi regarder si on peut demander, par exemple, à la grand-mère, à le grand-père, une tante, quelqu'un, on te dit, écoute, tu peux le prendre 2 heures. Même 2 heures, c'est une soufflée d'air et ce n'est pas être une mauvaise mère ou un mauvais père parce qu'on se dit, il faut aussi du temps pour moi. Très important.
Je suis complètement d'accord avec vous de donner du temps à la jeune maman, mais moi, je me souviens pour mon premier enfant qui pleurait aussi beaucoup, j'avais une cousine qui est venue à la maison, il était dans mes bras, mon bébé, qui pleurait, et puis ma cousine m'a juste dit « donne-le-moi ». Elle l'a pris dans ses bras, et en fait, je pense que j'avais accumulé une telle fatigue, un tel stress, que mon enfant pleurait dans mes bras, en fait, parce qu'il ressentait tout ce que je lui transmettais. Et le fait d'être passé juste dans les bras d'une autre personne qui est arrivée extérieure et qui était calme, a fait que lui s'est apaisé, il s'est endormi dans les bras de cette personne-là. Donc, en fait, c'est vraiment passer le relais.
Et ne pas le ressentir comme un échec.
Oui.
Vous voyez, le danger est toujours, mon Dieu, je ne suis même pas capable d'apaiser mon bébé. Et maintenant arrive ma cousine, elle l'a vu la première fois et il ne pleure plus. Mais en fait, l'enfant, comme vous dites, ressent le désarroi des parents. Et ce qui est très important, quand on a un bébé qui pleure beaucoup, 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 on change sans cesse de manière de l'apaiser. Parce qu'on dit, je vais faire ceci, je vais faire cela, nanana.
Ben oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on tente.
Voilà, on tente. Mais il ne faut pas tenter 36 choses, vous voyez. Il faut, à un moment, il faut, par exemple, si on a un bébé qui pleure, on continue. Ce n'est pas comme un bébé qui pleure pour une faim, par exemple. Là, c'est un autre niveau. quand on sait qu'on a exclu, il a mangé, il a les couches propres, etc. Et on pense que le reste, ça va bien. Et alors, on choisit une manière, une façon de l'apaiser et on reste avec.
Oui.
Parce que si vous changez sans arrêt toutes les 20 minutes ou 10 minutes, l'enfant se dit, mais ils ne savent vraiment pas ce qu'ils font. Vous voyez, ce n'est pas rassurant pour un bébé de voir que les parents sont tellement inquiets qu'ils font tout et n'importe quoi. Et après, ils n'arrivent pas à avoir une enveloppe extérieure, même du corps des parents, qui le rassure. Donc, moi, je pense que, par exemple, pour un bébé qui crie, beaucoup, entre 8 et 10, 12 heures, ça peut arriver. Il faut absolument chercher de l'aide professionnelle. Il y a maintenant vraiment des ambulances de cri et on les aide à trouver la meilleure façon d'apaiser le bébé. Et c'est ça. C'est, en fait, il faut se donner à nouveau confiance en soi-même, oui, qu'on est capable de l'apaiser.
On doit se faire confiance, on doit un peu déléguer aussi et puis bien observer son bébé pour être dans une bonne communication, un bon échange avec lui. C'est surtout ça.
Voilà. Et surtout, ne pas toujours se culpabiliser. Moi, j'entends tout le temps les parents dire « Mon Dieu, je ne fais pas assez, je suis assez bonne, je suis nulle. » Non, il faut arrêter de s'autocritiquer sans arrêt. Tapez-vous aussi parfois sur l'épaule, vous vous dites « Mais finalement, on fait un bon boulot. » Et je dis toujours, si vous êtes là en train de nous écouter, applaudissez-vous un peu parce que vous pouvez toujours au mieux.
C'est très important, je pense, c'est ça un joli mot de fin, de s'applaudir. Applaudissez-vous les parents pour vous dire que vous faites un bon boulot.
Voilà.
C'est important. Merci beaucoup Stéphane Valentin pour cet échange intéressant sur les pleurs de bébé et sur ces précieux conseils pour les jeunes parents. Je pense qu'ils en ont besoin. Merci beaucoup.
Merci Dorothée.
Retrouvez sur le site parents.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'oubliez pas, tous les premiers samedis du mois, on retrouve notre nouvel épisode de Galère sa mère. Et si vous avez envie qu'on aborde un sujet qui vous tient à cœur, et ben mettez-nous vite 5 étoiles et puis envoyez-nous vos suggestions en commentaire. Je suis Dorothée Saada, je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Acouboisiz. À très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.